Récréation sonore.
Sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Paris sur le 93.9. Il est 19h et c'est l'heure de récréation sonore. Ce soir, on va jeter une oreille aux interstices urbains, où la nature reprend ses droits, avec l'aide de quelques mains vertes. Que ce soit sur un petit balcon, pas plus grand qu'un couloir, sur le toit d'un gymnase du 20e arrondissement, ou sur une friche perchée au-dessus d'une autoroute à Nanterre, des jardiniers du dimanche sèment, plantent et récoltent les fruits d'une révolution douce au cœur de la ville. Armés de bêches et de patience, cernés par le béton, tous, chacun, ensemble, ils cultivent leur jardin.
Oui, c'est Juliette.
Là où on est vraiment, c'est dans un jardin, on va dire ça comme ça. On est en automne, il fait froid, le jardin est vert. On est sur un balcon de type couloir. Donc on a 1,20 m, je dirais, de largeur. Et en longueur, il faudrait mesurer peut-être 5 mètres 30. Ça va, ça paraît cohérent. Et même si c'est un couloir, j'ai la place pour mettre une petite table, 3 chaises. Donc agréable. Niveau odeur, parce qu'on est quand même sur la rue, donc là ça sent la ville. Mais j'avais un jasmin à une époque, et là qui embaumait, je pense, tout le quartier. Je suis dans le quartier indien et les Indiens étaient ravis. Ils s'étaient dit que c'était mieux que l'encens et d'avoir du jasmin fleuri chez soi. Là, on entend les klaxons, on est vraiment sur un gros, gros boulevard, quoi. Donc, j'ai un transat, j'ai tout ce qu'il faut pour l'été, mais c'est pas super zen. Où il faut des boules caisses, où écouter de la musique sous le casque pour parler, il faut un peu hausser la voix, donc c'est pas l'idéal de chez l'idéal. Mais là, mais même pour la vue, on a l'intérieur. Avant de voir la vraie rue et le vrai boulevard, en premier plan, on a les plantes. Donc c'est quand même pas mal. Ça donne une respiration, même si mes plantes ne respirent pas un bon air. Moi, ça doit me faire une respiration. Ouais. Est-ce qu'on commence par compter les pots? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 balconnières. J'ai oublié un autre pot. J'ai oublié une tour de pots et un bac où là, il y a mes légumes. En étant dans une ville, on a appris à s'entasser sur des immeubles. Eh bien, il y a le même concept pour la plante. La plante, quand on n'a pas beaucoup d'espace, un jardin de 3 hectares, on peut entasser les pots. Donc là, j'ai une tour de pots, 18 pots en un. Et ben, c'est là où trônent les chrysanthèmes au-dessus. Ça fait un totem. Et si j'avais à m'agenouiller devant quelque chose sur mon balcon, ça serait devant ce totem tour de plante. J'ai 28 ans et j'ai vécu 20 années de ma vie à la campagne profonde avec un grand, grand jardin et mes parents travaillent avec la terre beaucoup. Du coup, je sais ce que c'est qu'avoir la main verte et moi, je ne l'ai pas. Mais j'ai la main verte quand même, verte pâle, puisque j'arrive à bien faire pousser les plantes grasses et toutes les plantes assez faciles à avoir. Alors, j'avais commencé mon balcon en me disant que je voulais des légumes. Parce que je suis une fille de la campagne et je voulais quelque chose à manger, quoi. Mais on entend le bruit, alors j'avais un peu peur après que mes légumes ils soient imbibés de goudron. Et du coup, on est passé sur des plantes qui restent vertes, même quand il fait froid. Donc on a quoi ? C'est basique, hein. J'ai du pois de senteur, là une misère violette qui pousse. J'avais récupéré un bout chez ma mère, ça pousse, j'en ai partout. Il y a ma clématite. Là, c'est une histoire. J'ai 2 pots qui sont envahis par une plante grasse dont je ne connais pas le nom. Elle fait des petites fleurs jaunes. Je sais pas c'est quoi en vrai, mais c'est pas moche. Ça habille. Ouais, c'est joli, c'est mignon. Tant que ça va pas, parce que là, ouais, on n'a pas parlé de la pièce magistrale de mon balcon, qui est un olivier qui a ta taille, hein. Mais donc il fait 1,65 m.
Sans vouloir te contrarier, je pense qu'il fait moins, parce que moi, je fais pas 1,60 m.
C'est pas vrai? Bon, bah d'accord, elle est vraiment petite, mon olivier est pas très grand. Mais il est pas très grand, pourquoi? C'est parce que je ne l'ai pas changé de pot. Et la plante s'adapte au pot où tu la mets. Si on te mettait dans un grand pot, tu pourrais pousser, t'inquiète pas. Hein. Enfin, donc, change de pot et c'est bon, la vie va.
Vivre à la ville, c'est vivre à la ville, c'est un choix. Je suis une fille très très adaptable, je suis un peu comme une plante grasse. Donc en fait, je peux être à la ville sans plante. C'est le hasard qui a fait que j'ai trouvé cet appartement, pas cher et avec un balcon. Donc là, que demander de mieux? Donc tout de suite, je crois que j'ai acheté un lit. Et la balconnière est venue quand même très très rapidement avec après.
Là, on a des avocats, mais j'aurai jamais d'avocats. Là, on a deux citronniers qui font des petites fleurs blanches. Et quand le fruit fait plus de 3 mm, il tombe à terre et j'ai jamais eu de citron, galère. Une petite tomate qui grossit pas et elles attendent un point de soleil pour rougir. Mais bah ouais, bah là j'attends avec elles quoi. Là, ce qui tombe sur la rue, c'est des petits pois. Je vais les raccrocher. Mes récoltes, c'est genre, t'as 3-4 gousses. Avec 3-4 gousses, tu bouffes pas vraiment beaucoup, quoi. Mais le petit pois, c'est encore un truc que je me permets de manger sur mon balcon. Et avant, j'avais des fraises. Les fraises, ça pousse du tonnerre. Donc j'avais plein de fraises. Mais un jour, j'ai fait un terrible cauchemar où je cueillais une fraise de mon balcon. Mais là, je la croquais à l'intérieur, c'était noir. Et j'avais eu un liquide du pétrole qui me coulait dans la bouche. Et depuis, je ne fais plus de fraises. Donc j'ai plus de fraises sur mon balcon et je fais cuire tout ce qui est consommable. Ah non, je sais pas, j'ai aucune fierté pour mon balcon. Simplement, en fait, le plus important, c'est d'avoir dans une journée, dans un week-end, dès qu'il y a un petit peu un bout de soleil, et bah là, tu vas t'occuper de ton balcon. Donc tu prends l'arrosoir et tu vas sur le balcon, tu coupes les trucs un peu morts et ça te fait une pause. Même si t'as le bruit de la ville autour, tu ressors, tu rentres chez toi, t'as les mains pleines de terre et t'as un truc... En fait, c'est ça que je préfère dans le balcon, c'est m'occuper d'eux. Pas de produits. Je n'ai pas de produits, juste du bon terreau. Ah si, tu vois un truc. Ouais, mais il est vieux, j'utilise pas. Si, j'avais un... À un moment donné, j'ai eu des bêtes. Je vais essayer de décrire la bête. Ça serait une sorte de mille pattes, mais avec les pattes un peu crochues. Et elle faisait du 3-4 cm et elle bougeait, là je mime la bête, elle bougeait en mode ondulation dans mon bac. La bête était vraiment moche, alors on s'attache parfois au physique, on se dit que comme elle est un peu effrayante, elle doit être nocive. Et il s'est avéré que c'était des bêtes complètement bonnes pour ma terre. Enfin c'était l'inverse, elles m'aidaient quoi, c'était comme les coccinelles ou comme je sais pas quoi, elles étaient bonnes pour moi. Donc maintenant je la trifouille plus la terre, je fais comme si j'avais pas vu que j'avais plein de bêtes. Ça me gêne pas, ça me gêne pas, ça fait de la compagnie.
Je déménage en février prochain. J'ai trouvé un appartement qui a plus de pièces, mais qui a moins de balcons, c'est-à-dire qu'il en possède zéro. Donc je fais un appel à tous ceux qui veulent des pots avec ou sans plantes, grasses ou pas grasses, à l'intérieur. Vous m'appelez et on peut faire un échange de pots. En échange, je vous demanderai des plantes d'intérieur.
C'est pas un crève-cœur, du coup, après avoir fait pousser tout ça?
Mais c'est la vie de la nature, quoi. Ça pousse. Ça crève, ça tourne, normalement ça donne, donc là ça se donne, ça donne pas trop de fruits, mais ça se partage quoi, donc qui veut, dit, je donne.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce. Monsieur le promoteur, le coupé. lapins qui sentaient bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur le fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
Récréation sonore.
Jardin sur le toit. Je ne sais pas s'il porte un autre nom. C'est le jardin sur le toit, je crois, oui.
Le jardin du toit, sinon je n'ai pas d'autre mémoire dans ça.
Quand on est sur ce toit, on voit le béton, mais on l'oublie. Quelque part, je dirais ça.
Donc aujourd'hui, il y a un groupe, voyons, qui est en train de libérer et de préparer une parcelle. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui coupait des déchets verts, bonjour, pour faire du paillage, pour couvrir le sol. Il y a des gens qui se promènent. Je ne sais pas si là c'est une préparation tisane ou c'est plutôt de la tchatche, une papote. Bref, il faut faire un tour au jardin et voir.
La pluie fait des claquettes, comme dirait Nougaro.
Alors vous venez jardiner même quand il pleut comme ça?
Oui, s'il pleut, on dit ça retarde, mais ça n'empêche rien. La pluie, c'est le porte-bonheur chez nous en Afrique. Moi précisément, je viens du pays d'Ogo, au Mali. Donc nos vieux disent que s'il pleut, ça c'est le bonheur. Toute chose que tu sèmes en plein pluie, ça va donner plus que quand il n'y a pas eu pluie.
Moi, ouais, c'est billard Jean-Julien. Ouais, billard. Ouais. Comme d'accord. Le billard, hein, B-I-2-L-A-R-O-D. Ouais.
Et ça fait longtemps que vous venez dans ce jardin?
Si, ça fait exactement 4 ans et demi. Je viens couramment le mardi, le jeudi matin et le vendredi après-midi de 14h jusqu'à 17h30. Moi, je vis dans le 13e. Et là, je viens en bus. Numéro 64, c'est pas loin, c'est à peine 20 minutes sans embouteillage.
Ouais. Pourquoi vous venez? Qu'est-ce qui vous plaît ici?
Tout. J'aime tout là-dedans. Il faut tout essayer à faire avec la terre, tout ça, les plantes, les arbustes, tout. Tout. Comme aujourd'hui, hein, je fais ça. Je suis en train de couper un petit morceau des pieds de maïs. Peut-être tout à l'heure, je serai en train de bêcher, si le temps le permet.
Et pourquoi vous coupez des pieds de maïs?
Ben, je coupe pour le transformer en engrais. On coupe un petit morceau, on laisse pendant 2-3 mois pour que ça se transforme en liquide, en pâte, pour le mettre dans les terres, tout ça, dans les plantes, avec les plantes, tout ça.
Selon avec Martha, qui peut nous conseiller, voilà, nos envies, est-ce que tu as envie de faire ça aujourd'hui? Il y a cette possibilité, ou il y a celle-là, ou oh, tiens, l'autre jour, on a oublié de faire ça, est-ce que tu veux le faire?
Dans les jardins, chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Donc je ne peux pas choisir celle-là qui me plaît maintenant. Donc tout ce qui est dans les jardins, tout est bon pour moi. Moi, c'est Amagana Guindo. Amagana. Je suis aventurier, je suis un immigré. Là, en profitant de cette jardin, j'ai eu beaucoup de connaissances. Donc ça me fait beaucoup plaisir. Les jardinages, parce que moi je suis né dans l'agriculture. Donc quand je vois ça, ça me donne les paysages de là où je suis né aussi.
Non mais pardon, je suis vraiment curieuse de cette question des arbres de Judée. On peut les manger comme ça, comme des petits pois? Il ne faut pas les cuire ni rien?
Si, il faut les cuire, oui.
Okay.
Ah, comme les petits pois.
Je suis Valérie Navarre, je coordonne les Jardins du Béton, qui sont gérés par l'association Arfog Lafayette. On est un petit peu pionniers à Paris dans la mise en place du premier jardin collectif d'insertion sociale. Maintenant, on synthétise en parlant de jardin solidaire. Voilà. À l'origine, donc, je suis moi-même assistante sociale dans une association, un service RSA. Et on s'était rendu compte qu'une partie du public était très éloignée de l'emploi. Or, les politiques sociales ne parlent que d'insertion par le travail. Mais sur le terrain, on se rend compte qu'il y a un certain pourcentage du public qui n'en est pas là du tout et en souffre énormément. D'où l'idée en équipe de réfléchir à un dispositif à mettre en place pour permettre une redynamisation personnelle, une remobilisation sociale, avant de pouvoir parler d'insertion professionnelle. Donc, en équipe est venue l'idée de mettre en place un jardin. À l'époque, en 1999, il y avait très peu de jardins partagés, ça démarrait à peine. En y réfléchissant, on avait des terrasses vides qui encadraient une partie de nos locaux dans le 20e. Et on s'était dit, vu qu'on a cet espace-là, le jardin, c'est universel, ça parle à tout le monde, c'est intergénérationnel. Voilà, donc c'est parti vraiment comme ça, sur l'envie de tester à moindre frais cette idée-là.
Vous avez quelle épaisseur de sol ?
80.
Donc c'est vrai que là, on a bâti un outil qui n'existait pas à la base. Et on a été un petit peu dépassé par les événements, mais dans le bon sens du terme. Très vite, ce jardin s'est ouvert aussi sur le public du quartier, des mères de familles nombreuses, des personnes ayant l'allocation adulte handicapée, ou de rester enfermés chez eux, des patients stabilisés. Enfin voilà, on en a fait une richesse. Au lieu de rester entre soi, au contraire, ces jardins devenaient de véritables lieux de vie et de mixité sociale avec cette passion commune qu'est le jardinage, voilà, en quelque sorte.
Ah, et moi j'ai un plan récup.
Ah, voilà. Oui. Voilà.
Dix ans après, on s'est développé, bien sûr, mais on nous a proposé donc de gérer deux autres lieux. Le fameux jardin sur le toit du gymnase des Vignoles, qui est une expérience pilote de la ville de Paris, et un jardin en pleine terre dans le 12e arrondissement.
Et sur ce toit, donc, ça doit faire l'équivalent de 3 étages de hauteur à peu près, il y a entouré d'arbres, des arbres de Judée qui sont très beaux au printemps, des fleurs magnifiques. Et nous avons des allées, ce sont des herbes odorantes. Il y a aussi beaucoup de fleurs, bien que l'automne soit là. Et puis carottes, choux, tournesol, sauge, fèves, petits pois, haricots verts, etc. etc. C'est du travail, mais en même temps, c'est du plaisir. Voilà, le plaisir d'être là, de partager, de connaître des gens. Là, parmi nous, on est très discrets. Mais on sait qu'il y a des gens aussi qui sont là, bon, parce qu'il faut du lien social et montrer qu'ils sont capables de faire comme d'autres. Hein. Mais ce sont des gens aussi dans des situations sociales et parfois mentales ou médicales hein, aussi, qui venaient ici justement pour pouvoir partager, se parler. Là, j'ai trouvé vraiment de quoi m'intéresser Je trouve qu'il y a un beau rapport à la nature, à ce que l'on peut attendre d'elle et faire par nous-mêmes, et puis le lien social.
Ça permet des vraies rencontres entre des mondes qui ne se seraient pas rencontrés. Et ça, pour ça, c'est déjà fabuleux, quoi. Moi, je trouve ça magnifique. Mais c'est vraiment une nécessité. Là, les personnes qui n'ont pas les moyens se sentent enfin redevenir citoyens. Et comme je dis souvent, ce ne sont plus uniquement des personnes passives, parce qu'ils souffrent de cette passivité. C'est pas qu'ils le veulent, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. On leur redonne une place active, même si ils sont allocataires du RSA. Et ça, c'est énorme pour la restauration de l'image de soi, de la confiance en soi. Voilà. On est tous plus ou moins conscients des vertus thérapeutiques du jardinage. Et les personnes le disaient elles-mêmes, oh, mais c'est incroyable, hein, au moins quand je viens pendant 2h30 jardiner, j'oublie tous mes soucis, je me sens plus détendue, je suis plus apaisée, voilà, c'est vraiment, ça fait énormément de bien.
Vous entendez le bruit que ça fait, hein? Là, il faut éviter les doigts.
Pour réaliser ce travail-là, il faut des moyens, parce que ça ne se fait pas comme ça tout seul, ce n'est pas un simple jardin partagé. Nous, on a vraiment demandé à ce qu'il y ait une personne embauchée pour accueillir et encadrer tous ces groupes d'adultes et d'enfants. Et là, c'est toujours très compliqué dans le social de créer des postes. Donc, les partenaires financiers, les élus nous ont proposé de faire appel à des contrats aidés, mais là, ça arrive au bout. Il n'y a aucun profit. Donc vraiment, on dépend des subventions pour pouvoir réaliser un travail social. Qu'est-ce qu'on fait si on ne nous donne pas les moyens de créer des postes et de pérenniser ces postes? Souvent, on met la clé sous la porte parce qu'on ne trouve pas les moyens pour continuer. Alors que c'est une vraie réussite, c'est une vraie vitrine de la ville de Paris aussi. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Ça serait dommage d'en arriver là, vraiment.
Oui, il faudra un peu réfléchir parce qu'on veut y mettre. Et c'est vrai qu'il
y a un moment que je ne venais pas et je culpabilisais presque de laisser tomber, pas seulement le jardin, mais surtout les êtres humains qui sont ici. Voilà, c'est un peu le rapport que j'ai à ce jardin et que je pense que d'autres doivent avoir. Voilà.
Oui.
Est-ce que vous le trouvez beau, votre jardin?
Ouais.
On entend même des mouettes.
Si, si, parce que la Seine n'est pas loin, alors on passe.
Je trouve ça génial. Après, on dit que les grosses villes, bon, mais si, il se passe des choses. Venez voir, au moins venez voir. Être curieux, aller voir ce qui se passe à côté de chez soi déjà, ça commence par là. Alors bien sûr, il faut avoir du temps pour cultiver son jardin, comme disaient les philosophes. Hein. Mais bon, il faut le trouver.
Sacré géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdemoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Ce qu'on est bien dans ce jardin,
loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Oh, 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 oh. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. Ouh, un petit ovadon.
Incredible experience.
Récréation sonore.
Yes.
Voilà, donc là on va se mettre au travail. Je vais attacher le cochon. Voilà, caravane, sortir les outils.
Je suis arrivé ici avec deux caravanes, des tentes militaires, des espèces de marabouts, deux chèvres et demi, un chien 1,4.
On va voir qui viendra. Les habitués, ils ont tendance à être prennent leur temps.
Avec un spectacle que j'ai joué sur le chapiteau du voisin, qui est un spectacle un peu fondateur de la Ferme du Bonheur.
La balade à mouton, ça les amuse au début, et puis après, ils savent que c'est ici que ça se passe.
C'était... un spectacle assez baroque, assez énorme. J'avais une énergie à l'époque, je soulevais des montagnes. Roger Després, agriculteur de spectacle ou agriculteur d'opérette. En bref, une espèce de tour du monde des gens qui sont en rapport étroit avec, avec la Terre. Avec un petit T, mais aussi avec un grand T. Là, nous sommes au bord du Favela Théâtre. Je dis favela théâtre parce que je l'ai construit comme matériau de récup, des tôles de chantier, des poteaux télégraphiques. Ça m'a coûté à l'époque 7000 francs. C'est l'endroit où je tue mon cochon tous les ans. C'était dans les origines de nos Homeric Tough Electro, le premier dance floor. Maintenant, il est plus loin parce qu'il y a tellement de monde. C'est l'endroit où l'équipe des jeunes dîne, prend son petit-déj. C'est un peu le délire de cette ferme du Mélan. C'est à la fois un lieu de vie et à la fois un lieu public. Un lieu privé, un lieu public. Au départ, j'avais 300 mètres carrés. Et puis au fur et à mesure, des récup, de caravanes, la création du favela, la construction d'abris un peu plus conséquents que mes tentes militaires pour les animaux, clac, clac, clac. Puis ben, maintenant, c'est calé, quoi. On ne peut plus bouger. Bon, à chaque fois, on réorganise. Oui, comme la vie, quoi. Un mélange entre brique et broc et le chic. Entre le pire et le meilleur. Il y a un très beau poème de Walt Whitman, d'ailleurs. I permit to speak at every hazard, nature without check, with a regional energy. Je laisse parler au pur hasard, la nature, sans entrave, avec l'énergie des origines. Et il dit un vers plus loin, j'abrite le pire et le meilleur. Là, derrière le tas de fumier, vous avez l'ex-national 186, qui est doublé par l'A86, le super périphérique du Grand Paris, comme on dit. Au sud, vous avez la cité Anatole France, une des 8 cités qui nous entourent, mais celle-là est la plus proche, des énormes barres HLM, derrière laquelle se trouve l'A14, l'autoroute qui passe sous la Défense, qui se trouve en souterrain du fameux axe historique. Un couloir aérien pour Roissy. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire comme saloperie?
Allez, viens. Allez.
Je crois que c'est l'heure d'aller au champ. Il faut que tu suives.
Allez, Ricard. Héroïque, allez, allez.
Donc là, c'est quoi comme autoroute, ça?
Alors là, c'est l'autoroute A14. Et en gros, là, on est après la Défense, après même les terrasses de Nanterre. Et l'autoroute est couverte par une dalle sur laquelle on a 3 mètres de remblai. Et donc, c'est sur ce remblai-là qu'on essaye de démontrer, et au-dessus d'une autoroute, on peut recréer un paysage vernaculaire rural. Voilà, donc on est à vol d'oiseau à quelques centaines de mètres de la Grande Arche.
Je me souviens que très spontanément, en atterrissant sur ce terrain, donc je plante, je m'organise un petit potager J'avais mes chèvres, j'avais un âne. Donc voilà, je fais des enclos et puis j'organise tout ça. Et de fil en aiguille, il y a un truc agricole, peut-être un peu anecdotique, dans le sens où je ne vais pas nourrir 50 000 personnes, mais une vraie pratique. Et je m'aperçois de l'identité très supérieure que ça donne au reste de la chose. La culture au sens où on l'entend à la con, c'est-à-dire les arts. Je dis de la ferme que c'est un endroit de culture dans tout le sens du terme. Je fais les spectacles quand j'ai pas le choix, un choix esthétique. Je flash sur un truc, je dis « waouh, il faut que je fasse quelque chose de ça ». C'est ce qui se passe en ce moment sur le Giono. Ce personnage-là, Elzer Bouffier, qui seul, sans rien dire, va planter des arbres en permanence, sans arrêt, sans le dire à personne, parce qu'il s'ennuie, il a perdu sa femme et son fils. Il est parti faire berger, tu vois, et il a trouvé que le pays était austère. C'est parce qu'il manquait des arbres, il s'est mis à planter des arbres et il a fait ressurgir une région. L'essentiel du message, c'est la capacité de chacun à commettre une révolution progressiste. Toi, moi, ceux qui nous écoutent, n'importe qui, Héroïka, nous pouvons intervenir sur les affaires du monde. Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner l'un après l'autre avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Quand il eut ainsi devant lui 100 glands parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher.
Allez, viens Héroïka. Allez.
Allez, allez, allez.
Ici.
Moi, je m'occupe un peu de tout ce qui est agriculture, environnement à la ferme. Je suis paysagiste de formation. Je m'interrogeais sur la gestion de l'espace public et sa gestion par l'agriculture, en fait. C'est-à-dire que l'espace public, c'est pas forcément un espace ornemental qui coûte de l'argent parce qu'on crée un décor pour les habitants, les citoyens d'une ville. Ça peut être un espace productif au sens de l'agriculture et de la culture. C'est des choses qu'on retrouve, en fait, dans le projet de la ferme et le projet de Roger.
En 2003, je tombe par hasard sur le dossier de l'équipe d'urbanistes lauréat du concours international de poursuite de ce fameux historique. Et à la page 7, je vois relocalisation de la ferme du Bonheur sur le grand axe de la Défense. Je suis, ah merde, j'avais oublié que ma mairie dite communiste, plurielle, participative, de gauche, monopole du cœur, on n'était pas au courant. Donc j'ai bien compris que ça allait être encore une fois, comme d'habitude, le moins 10 ans. On va poser la ferme du Bonheur, on va la mettre là. Quand on aura besoin du terrain à récupérer pour faire du béton et du pognon. Et là, c'est quand même, encore une fois, assez symptomatique de la façon dont les décideurs considèrent les gens. Je ne veux plus dire citoyens, ils l'ont castré, ce mot-là. Mais les gens. Et compris qu'il fallait, pour ne pas se faire déplacer telle une coudée de canalisation ou un abribus, exprimer notre propre vision de notre propre relocalisation. Le pré, c'est ma première réponse à relocalisation de la ferme du Bonheur sur le Grand Axe. Pré comme parc rural expérimental. Cette ZAC portait sur 124 hectares. Il y avait à peu près à l'époque 80 hectares abandonnés. Dégueulasse. Des remblais hein, au-dessus d'une autoroute. Hein, c'est vraiment dégueulasse. Mais où la nature faisait ce qu'elle avait à faire, donc une espèce de forêt urbaine avec un panel de diversité très très faible, mais quand même, en tout cas d'un point de vue du paysage, au sens touristique du terme, bah, c'était beau. Et donc le 28 décembre 2008, avec une vingtaine de personnes, nous avons planté un nèfle sur la dernière grosse friche sauvage et libre, ce que j'appelle désormais le champ de la garde. Nous avons planté un nèfle pour illustrer la simplicité de notre démarche, et nous avons pris autorité, au sens de la responsabilité, hein, pas du pouvoir, commune, libre, spontané, aléatoire, précaire, j'en passe à des meilleurs. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandais si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était ? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale, ou peut-être était-elle propriété de gens qui ne s'en souciaient pas ? Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi, sanglant, avec un soin extrême. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions, puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant.
En gros, l'ambition, c'est quand même de démontrer que, en se préoccupant des espaces délaissés, on va pouvoir démontrer que ces espaces sont suffisamment nombreux, suffisamment riches et variés pour qu'on puisse envisager, dans tous les interstices comme ça, oubliés de la ville, faire fonctionner une exploitation agricole, au moins vivrière, paysanne. Et du coup, ben, ça veut dire les céréales, ça veut dire le maraîchage, les légumes, les animaux, les pâtures, les foins, la paille, quoi. Takodak ! Derrière, là ! Allez, derrière, là ! Allez, derrière ! On part finalement de quelque chose qui n'est pas adapté, mais qui, finalement, en peu de temps, et en moins de temps que ce qu'on pensait, peut le devenir. Alors, on a des entraves. Et c'est pas tant le problème de la fertilité des sols qui nous pose problème, mais c'est le fait qu'on travaille sur des remblais, sur des espaces qui ont été complètement, comment dire, tourmentés par l'urbanisme, des espaces dont on a beaucoup déplacé les terres, on a re-ramené des remblais issus de la démolition, et donc ces remblais-là, au final, sont pollués de par simplement la manipulation qu'on a eue sur ces territoires-là depuis un siècle. Donc voilà, et puis du coup, actuellement, on a pas mal l'école d'agronomie, AgroParisTech, qui s'intéresse à nous. On est même conventionné avec eux sur plusieurs études. Comment c'est polluant, selon les conditions physico-chimiques du sol, et selon les parties qu'on consomme dans les légumes, va y avoir transfert ou non. C'est plutôt optimiste sur l'idée que les légumes ou fruits sont cultivables ici.
La rumeur a enflé et on voyait que des gens venaient spontanément. Donc ça a été instauré et désormais on y est tous les jours. Et on est rentré dans un réseau de volontariat international qui s'appelle le woofing. Ça prouve encore une fois l'universalité de la chose naturelle. Et donc maintenant, on y est H24.
Et we are gathering that natural.
On rassemble cet engrais naturel.
And put in the squares.
Et on le dispose sur ces carrés de terre pour pouvoir ensuite y semer du blé.
Plant the seeds from wheat. That is what I'm doing here.
C'est ce que je fais ici.
Je dis simplement aux gens, voyez, voilà cette poubelle, il faut faire à manger. Et c'est génial. Il y a vraiment quelque chose d'universel. Des plus gauches, des plus rustres, aux plus savants, aux plus cultivés, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. C'est vertigineux.
Je m'appelle Jesús. Je suis vénézuélien.
Je me suis toujours intéressée aux techniques qui favorisent un mode de vie durable. Le fait d'investir une partie de l'environnement, mais d'une manière consciente, d'une manière respectueuse vis-à-vis de cet environnement. Parce qu'on doit le transmettre aux générations futures.
Ce type de projets. Uno puede aprender más acerca de eso. Y las personas que vienen como voluntarios pues traen otras ideas.
Et dans ce type de projet, on peut en apprendre davantage. Et les gens qui viennent en tant que bénévoles apportent d'autres idées qu'on peut partager avec eux et on peut apprendre d'eux et affiner notre propre vision des choses.
Il s'agit de nettoyer, il s'agit de faire à manger au sens agricole néolithique. Et puis la troisième dimension, cet endroit-là doit être un endroit public pour la pratique laborieuse du travail agricole, pour la pédagogie. S'il y a des gens, des écoles qui ont envie de voir, il faut qu'ils puissent se balader. Et pour les scientifiques, qu'ils aient des accès au maximum des propositions que je fais. Et la cerise sur le gâteau, c'est la chose sociale. Je ne l'ai pas instauré, ça s'est fait tout seul. À un moment donné ou à un autre, ça pose l'outil dans l'après-midi. Ça pose l'outil et ça se rassemble soit sous la tente que j'ai construite inspirée des architectures nomades, soit autour du feu quand il caille. Et là, c'est le goûter. Et c'est un moment inouï, inouï. Où là, on est plus des bougnoules, on n'est plus des intellos, on n'est plus des pédés, on n'est plus des meufs, on n'est plus... On est des paysans. On est des paysans du dimanche en plus. Nous sommes tous responsables, chacun, de laisser faire cet état sale, industriel en l'occurrence. Nous sommes aussi responsables. Donc on y va nous-mêmes. On pose une petite pierre, c'est déjà ça. Et la foule qui vient, presque 2000 personnes en 2013, hein, bah, c'est comme des machines. Sauf qu'on y va à l'humain et à la main. Et ça nous permet d'être en justesse et en justice totale vis-à-vis du fonctionnement du vivant. Les chaînes de 1910 avaient alors 10 ans. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait, en trois tronçons, 11 km de long et 3 km dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que les dieux dans d'autres domaines que la destruction. On est très précaires. L'interdiction au public de la mairie de Nanterre nous empêche tout crédit d'investissement. Le ministère de la Culture qui venait de nous découvrir mettait 150 000 francs sur la table qui ont été empêchés de nous parvenir par la ville. On fait les choses. Je l'ai dit à la ville, vous avez vu la brutalité de votre ville ? Je veux dire, toutes les pires caricatures de l'urbanisme contemporain, on se les cogne à Nanterre. C'est impressionnant. Je dis, vous avez vu votre ville, vous méritez que nous, franchement. J'enfreins parfois la loi en construisant un théâtre sans permis de construire. Mais comme je dis, dans le désordre urbain où je bosse, je ne me pose pas un quart de seconde la question d'un permis, mais d'un devoir. Un devoir poétique. C'est-à-dire politique et esthétique. Plus la brutalité de notre environnement sera grande, plus nous serons délicats, sinon précieux.
Récréation
sonore.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 et ses récréations sonores. Merci pour leur participation à cette émission à Elsa Denac, la main verte au balcon fleuri, Valérie Navarre, Teresa, Jean-Julien et à Magana au jardin sur le toit rue des Vignoles et à Roger Després, Mathieu, Victoria et Ressous à la ferme du Bonheur à Nanterre. Et maintenant, on retrouve François Bordonneau pour sa deuxième rubrique musique de la saison.
Récréation, musique.
Deuxième rubrique musique dans Récréation sonore, et ce soir, pas de nouveauté, mais plutôt un classique, un étrange et savant collage de bandes qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, à l'époque où je découvrais les Beatles et qui a certainement influencé mon goût pour le sonore. Avant-dernier morceau de la phase B du second disque de l'album blanc des Beatles, Révolution 9 est l'œuvre de John Lennon et de sa compagne, l'artiste avant-gardiste Yoko Ono. Lennon déclarait en 1970 au magazine Rolling Stone que le morceau a été réalisé à partir de 30 bandes tournant en boucle sur différents magnétophones et qu'il allait de l'un à l'autre modifiant tel ou tel paramètre. Quant à la fameuse litanie Number 9, Lennon dit simplement qu'il l'a trouvé drôle. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont voulu y voir un message, en particulier tous ceux qui, comme moi, ont écouté le morceau à l'envers et ont entendu le Number 9 se transformer en « Turn me on, dead man, allume-moi, homme mort », de quoi alimenter une certaine théorie du complot, mais ceci est un autre sujet.
Number 9.
They are standing still.
Upon the telegraph.
Number nine. Number.
natural imbalance. The Watusi. The twist.
Eldorado.
Take this, brother. May it serve you well.
Maybe it's not what? Maybe even then, exposure is something that's so difficult to bear. So by exposure,
Récréation sonore, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dimanche prochain à 19h comme d'habitude. Cette émission était réalisée par Juliette Medevielle et elle est podcastable sur notre site internet radiocampusparis.org à la page de l'émission. Très bonne soirée à tous à l'écoute de Radio Campus Paris.